Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Alléger les couvre-feux pour leur permettre de se produire et prendre soin de leur famille, c'est la demande des artistes et musiciens de Béni, mais les autorités les appellent à la patience en attendant le rétablissement de la sécurité dans la ville. Enrôlement biométrique des déplacés retournés internes dans le Kassai, le HCR a intensifié cette opération. Il est maintenant à l'étape de Kamusha, à Princesse de Tikapa et Kamonia. Dans ce journal, François Kadima nous fera le point de cette étape de Kamusha. Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Baba Mutuza, médecin directeur et pneumologue de la clinique Dieu est grand de la ville de Béni. Avec lui, nous parlerons de la multiplication des cas de pneumonie et d'infections respiratoires constatées dans la ville. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le jeune de Béni appelle les autorités à alléger le couvre-feu ramené à 19h après l'attentat qui a coûté la vie à 8 personnes le jour de Noël. Les artistes et musiciens qui travaillent souvent la nuit se disent en difficulté parce qu'ils ne peuvent plus se produire, ce qui a des conséquences sur leur vie familiale. L'un d'eux, Job Star, demande aux autorités de prendre en compte cette préoccupation. On l'écoute au micro de Marc Marofimbo.
Nous demandons à nos autorités d'avoir pitié de nous, que nos autorités tiennent compte de la conjoncture actuelle avec les conditions de vie que nous menons. Sans travail, vous risquerez de voler et on va vous emprisonner. Et ce n'est pas seulement nous artistes. Nous avons aimé l'état de siège au début car le couvre-feu débutait avec 3h. Là, on s'est débrouillé. Mais comme le couvre-feu commence maintenant à 19h, tu peux te produire en concert la journée alors que c'est l'heure des responsables pour chercher de quoi pourvoir aux besoins de leur famille. Ils nous disent que le couvre-feu est pour ceux qui déposent les bombes, bien sûr. Nous disons que notre armée doit être compétente, ainsi que ceux de la sécurité, surtout les hommes des renseignements doivent beaucoup nous aider. Nous aussi, population, nous les aidons, on n'a pas croisé les bras. Toute personne suspecte, nous avons la responsabilité de la dénoncer.
De leur côté, les responsables de la protection civile en ville de Béni demandent aux artistes de continuer à programmer leurs activités dans la journée en attendant le rétablissement de la sécurité dans la ville. 48 heures après la manifestation de la dynamique de jeunes dans le territoire d'Isangi, nous sommes dans la province de la Tchopo, laquelle a été dispersée par la police, l'administrateur de cette entité donne de la voix. Selon Joseph Mindinga, les raisons évoquées par la société civile pour justifier cette marche ne sont que de faux fuyants. Cette structure citoyenne est de mèche avec les politiciens qui tirent des ficelles à partir de Kisangani, a-t-il dit. Objectif, l'écarter de son poste pour qu'un fils du terroir vienne gérer les fonds d'appui au développement des territoires promis par le chef de l'État. Joseph Mindinga s'est ainsi exprimé au téléphone de Jacques Moukonkolé.
Il n'y a rien du tout. Ils sont en train d'instrumentaliser les jeunes gens d'une association dynamique de jeunes, une association qui est née à Kisangani, mais que les membres se sont transportés pour arriver à Isangi. Normalement, ils n'ont aucun document juridique sur ces jeunes gens qui sont manipulés par ces politiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a mis du désordre à Isangi. Mais c'est faux. Ce ne sont que des alibis. Le vrai problème, c'est que la promesse du chef de l'État concernant son programme d'appui aux 147 territoires de la RDC, le montant de 10 millions, ce qui fait tourner la tête de certains policiers. Donc, ils veulent à tout prix qu'un fils d'Isangi puisse gérer cet argent pour qu'il vienne s'agglutiner autour de lui pour se retrouver. C'est ça le vrai problème. Ils sont de mèche avec certains de ceux qui se réclament de la société civile et qui sont hors mandat d'ailleurs.
Il semble que cette marche a été dispersée par la police et qu'il y aurait même des arrestations.
Dispersée par la police et le journal en question des métiers. Mais qui tient les calicots de manifestants? Alors, est-ce qu'elle couvre l'événement ou elle fait partie des manifestants? C'est comme ça qu'elle a été confondue aux autres manifestants.
Par ailleurs, l'administrateur du territoire d'Isangi a indiqué que toutes les personnes arrêtées, y compris la journaliste de la radio Bondeko, ont tous été relâchées le même jour dans la soirée. À Boutembo, une quarantaine de secrétaires des différentes associations des jeunes ont été recyclés sur la matière ayant trait à la correspondance administrative. C'était au cours de la troisième journée de l'École du Savoir, un programme mis en place par le Conseil urbain de la jeunesse en ville de Boutembo. C'est dans le but d'outiller les jeunes sur les quelques notions de base dans la vie professionnelle. Kambere Matimbia Godefroy, maire honoraire adjoint de Boutembo, formateur du jour, a, dans son exposé, appelé les participants à veiller sur les normes administratives dans leur rédaction. Pourquoi le choix de cette thématique autour de la correspondance administrative? Franck Mukenzi, président du Conseil urbain de la jeunesse à Butembo, explique la motivation au micro de Grévis Salomon.
Nous voyons les lettres que les différentes structures de jeunes ont écrites et souvent il y a beaucoup à corriger. Alors que la correspondance, c'est quelque chose qui décrit directement celui qui l'a écrit. Alors quand il s'agit des mauvaises lettres qu'on va recevoir comme ça, ça ridiculise pas seulement ces jeunes, mais nous aussi qui les chapeautons. C'est ici que nous sommes dit avec les chevronnés qu'il y en a, on doit quand même former les jeunes à cette matière-là. Même dans la recherche d'emploi, il y a ceux qui pensent que peut-être ils pourront souscrire à des offres ici par là, mais si ce n'est pas s'exprimer par écrit, automatiquement c'est un problème, il ne pourra même pas être retenu. C'est ce que nous avons trouvé que le jeune doit bien vraiment savoir rédiger leur correspondance. Parce que même le doléance que nous avons, c'est ça tout notre rôle. Nous sommes là pour les plaidoyer. Vous venez plaider pour quelque chose, mais la formulation de votre correspondance ne revient même à rien. On ne sait même pas à qui vous adressez et automatiquement, tout ce que vous allez mener comme action va échouer. Nous sommes des asbels. On ne vit qu'au départ, peut-être des partenaires de fonds, mais vous demandez info avec une correspondance mal formulée et inutile, vous n'aurez même pas cet argent-là. Donc, le jeune doit bien maîtriser cela. Donc, la rédaction, c'est un grand élément de l'administration.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, les membres de trois fédérations de l'UDPS Tshisekedi qui ont pu siéger ce week-end à Kindu réclament auprès du président de la République chef de l'État l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs comme il a promis lors de son discours dans le Grand Kasaï. Ce dernier invite aussi les chefs de l'État à fouler le sol du Maniema au mois de mars prochain. On écoute un extrait de leur déclaration, lu ici par Dieudonné Selemani, porte-parole du groupe au micro de Florence Kizalunga.
Nous voyons que le mois de janvier tend à sa fin et il n'y a pas toujours élection. C'est pourquoi nous les rappelons de concrétiser sa promesse. La province a besoin d'un gouverneur élu qui est l'expression de confiance entre l'organe délibérant et la population. Je peux vous illustrer quelques difficultés auxquelles la province fait face actuellement. Le manque de confiance entre l'assemblée provinciale et le gouvernement intérimaire, l'insécurité très aggravante des voleurs à main armée accompagné de violences sexuelles à grande échelle, la violation flagrante de la Constitution pendant la période de gestion des gouverneurs intérimaires, notamment les nominations illégales, les révocations abusives, la province n'a pas un budget. Tout ce que nous venons d'énumérer, ça n'honore pas le chef de l'État parce que c'est lui le répondant en 2023. Nous invitons au nom de la population du Maniema, chef de l'État, et la distinguée première dame Mama Denise Nyakeru de nous visiter le 8 mars de cette année pour fêter ensemble le mois de la femme.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR intensifie l'enrôlement biométrique des retournés, expulsés, rapatriés et déplacés internes au Kasaï. Après Tikapa et Kamonia, cette agence onusienne est passée à l'étape de Kamwisha où les opérations ont également démarré. François Kadima qui s'est rendu sur place, voici son reportage.
Kamwisha est situé à plus de 85 km de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Dans ce village, l'on retrouve des personnes qui avaient fui la guerre de Kamuina-Nsapu et celles qui sont revenues de l'Angola. Le HCR, qui veut avoir une base de données sur le nombre, a démarré le 11 janvier leur enregistrement. 200 enrôlés par jour et la plupart sont très vulnérables, explique Jean-Serge Bachunga, qui coordonne ses opérations au Kasaï à cette agence onusienne.
Notre objectif, nous devons enrôler 100 000 personnes. Pour Kamwisha, si je calcule normalement, c'est 200 par jour. Nous sommes déjà à plus de 12 000 personnes. Les niveaux de vulnérabilité, il y a les handicapés, les femmes enceintes, les veuves et les personnes qui ont rien. Parce que lors de la guerre de Kamuina-Nsapu, plusieurs personnes ont perdu bien matériel.
Nous avons rencontré une dame qui a tout perdu après avoir fui les événements de Kamuina-Nsapu. Le mari et enfant ont été tués lors de ces violences, explique-t-elle, et veut de l'aide. Mes enfants et mon mari ont été tués et je suis resté seul. J'étais en brousse, je suis revenu et j'attends aussi de l'aide pour me prendre en charge. Signalons que cette opération menée par le HCR avec l'accompagnement de la Commission nationale pour les réfugiés CNR va se clôturer le 28 janvier à Kamwisha avant de se poursuivre dans d'autres villages. De retour de Kamwisha, François Kadima, Radio Okapi.
Nous avons évité les pires grâce à l'intervention de la MONUSCO. C'est le secrétaire du site des déplacés de Djaïba à 85 km de Bounia dans le territoire de Djougouni-Touri qui le dit Radio Kapi. Désiré Balouma remercie ainsi les casquets bleus de la MONUSCO qui sont vite intervenus hier samedi pour maîtriser un incendie qui venait de se déclarer au camp des déplacés de Djaïba situé à quelques mètres de la base militaire des casquets bleus népalais de la MONUSCO. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, a tout de même détruit 5 abris et des biens des déplacés, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Désiré Balouma salue l'intervention de la MONUSCO qui, selon lui, a permis de limiter les dégâts et d'éviter les pires.
Nous remercions la MONUSCO pour avoir intervenu avec leur camion citerne pour éviter les pires de cette famille qui devrait consommer tout le cas ici.
Pour rappel, ce camp de Djaïba héberge plusieurs milliers de déplacés qui avaient fui les atrocités des groupes armés dans la région de Fataki et ses environs. Et puis, cette bonne nouvelle pour les patients souffrant du diabète et d'autres désirés de savoir leur taux de glycémie dans la province du Tanganyika. 40 000 tests du diagnostic rapide de la maladie et d'autres intervenants médicaux sont arrivés au port de Kalemie. Ils proviennent de l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a annoncé samedi dans un communiqué devant la presse. Le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika parle d'un contrat de partenariat conclu en octobre dernier entre le gouverneur intérimaire Samba Kayabala Moni, parti en mission avec la firme Pro Pharma basée dans l'État du Texas. Les propos de Dieudonné Kamona sont recueillis par François-Xavier Mibi.
La bonne nouvelle est la suivante. Les chefs de l'exécutif provincial avait opté pour la commande de plus de 40 000 tests rapides du diabète sur base des appareils ESI-Check. Ces matériels, y compris les produits pharmaceutiques spécialisés en provenance des États-Unis d'Amérique, sont arrivés à Kalemie après avoir transité par les ports de Douala au Cameroun. Ils seront mis à la disposition du ministère provincial de la Santé publique qui définira la politique de leur distribution dans différentes institutions sanitaires de notre province en faveur de tous les patients diabétiques et ceux désirant les diagnostics rapides de leur glycémie.
Autre nouvelle, à Bukavu, l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin APEF a procédé samedi à la remise des brevets aux apprenantes de son centre de formation en métiers techniques. C'est dans le cadre de son projet renforcement des capacités socio-économiques et politiques des femmes et des jeunes filles vulnérables de Bukavu pour contribuer à leur autonomisation. Reportage Rachel Kessimbangu.
34 femmes et jeunes filles de Bukavu en situation de vulnérabilité ont été formées pendant 9 mois par APEF en coupe-couture, mais aussi en formation émancipatrice. Les buts, c'est l'autonomisation de ces femmes sur le plan économique, politique et social. Merveille Foura de APEF.
Après cette formation, les apprenantes seront accompagnées dans des ateliers de couture. En plus de cela, il y aura des suivis. Nous allons continuer à mener auprès de ces apprenantes parce qu'on est en train de viser juste l'autonomie de la femme. J'étais là, quand ces femmes sont venues pour solliciter la formation, ces femmes avaient besoin de cette formation. Si je commençais à vous raconter la vie de ces femmes, tout le monde serait en train de pleurer maintenant. Ces femmes se sont battues jusqu'à terminer cette formation.
Pour les apprenantes, c'est un sentiment de reconnaissance qui les anime au terme de cette formation, car elles se disent utiles à la société. Espérance Kamundala.
Je suis apprenante en coupe couture. Je suis heureuse aujourd'hui, car j'ai terminé la formation en coupe couture. Et je remercie aussi l'entreprise APEF pour la formation et l'encadrement.
Signalons qu'un kit de matériel de couture a été également remis aux lauréates à l'occasion de cette cérémonie. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé la liste des 81 membres du Conseil national de la transition. Le CNT, qui doit légiférer pendant toute la durée de la transition, entamé le 5 septembre dernier, à la suite du coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé au pouvoir depuis décembre 2010. Pour présider cette institution, le colonel Doumbouya a choisi un de ses proches qu'il a nommé par décret. Il s'agit du docteur Vincent Kourouma, jusque-là président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Et puis en Syrie, les combats se poursuivaient dans la nuit de samedi 22 à ce dimanche 23 pour le troisième jour consécutif entre le groupe État islamique et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie à la suite d'une attaque djihadiste d'ampleur contre une prison faisant près de 90 morts. Mais le bilan pourrait être plus élevé car le sort des dizaines de gardiens et des détenus reste inconnu selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal comme invité le médecin directeur et pneumologue de la clinique Dieu est grand de la ville de Béni. Il nous parle de la multiplication des cas de pneumonie et d'infections respiratoires constatées à Béni. Le docteur Baba Moutouza explique leur origine et donne quelques conseils. Il s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Docteur Baba Moutouza, bonjour.
Bonjour.
Une réelle perturbation climatique se fait observer en ce mois de janvier, connu comme un mois de sécheresse, mais c'est plutôt une période pluvieuse maintenant. Est-ce que cette perturbation n'a pas d'impact sur la santé de la population, dont les vulnérables, citons les enfants ainsi que les personnes de troisième âge?
Il aura sûrement un impact, je dirais, négatif sur la santé des enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, et encore plus ceux de moins de 6 mois. Et surtout encore, c'est là qui présente des cas de bronchiolite. En fait, c'est là qui sont exposés à développer un asthme en grandissant. Ce sont là les cas qui seront les plus exposés. Mais pendant qu'on parle d'enfants, il s'est aussi parlé des adultes âgés de plus de 60 ans avec des infections respiratoires chroniques. Et aussi, ils seront quand même affectés et on le voit déjà dans les consultations.
Et par exemple, chez les femmes enceintes particulièrement, cette perturbation climatique a quel type d'impact?
Alors, femmes enceintes, déjà d'une manière globale, elle est fragile durant la grossesse. Disons maintenant que la suite va dépendre de la manière dont elle se protège, c'est-à-dire son alimentation principalement, mais aussi son accoutrement. Ça, ça pourra avoir un certain impact selon qu'elle se protège correctement, qu'elle mange correctement ou pas.
Voilà que la situation est là, les enfants seront affectés de 0 à 5 ans. Comment les parents peuvent prévenir cette situation sur le plan médical et même sur le plan nutritionnel?
Donc la première chose déjà, c'est bien hydrater les enfants. Les nourrissons qui têtent encore, ils doivent têter suffisamment. Les petits enfants qui ne sont pas encore en mesure de demander de l'eau, ne pouvant pas parler, les parents doivent très bien les hydrater avec une très bonne quantité d'eau. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut qu'ils soient bien protégés par les par-dessus, les foulards de gorge, mais aussi par les bas. Contre le froid, c'est là qu'ils vont le matin à la maternelle, à l'école. Il faut qu'ils soient assez bien protégés, n'est-ce pas, contre le froid et donc être bien vêtus, je vais dire lourdement vêtus. Après cela, il faut quand même une très bonne nutrition, une très bonne alimentation. Je vais parler ici d'une alimentation riche en protéines. C'est très important parce que les matins, donnons plus aux enfants des graisses. Donc, ce dont ils ont plus besoin maintenant, c'est des protéines pour permettre à ce que leur système immunitaire soit au point. Pour les personnes de troisième âge avec des maladies respiratoires chroniques, asthme ou bronchite chronique, c'est maintenant ou jamais de se protéger. Mais aussi, ils doivent très bien s'hydrater et avoir évité les allergènes. Parce que ça va venir avec le froid. On peut avoir tout ce qu'il y a comme allergènes par rapport aux moisissures qui viennent, par rapport aux légumes, des choses comme ça. Il faut qu'ils puissent tirer attention à ces choses-là.
Docteur, est-ce que cette perturbation climatique peut aussi avoir des conséquences, soit apporter aussi d'autres maladies annexes, par exemple?
Si, les périls fécales, vous savez qu'il y a ces taux qui viennent tous les jours et parfois que c'est pas bien traité. Alors les gens vont se réveiller le matin et vont courir vers ces taux de pluie, ces taux qui va stagner avec des microbes et tout ce qu'on va suivre comme maladies hydriques, n'est-ce pas? Les salmonelloses et d'autres maladies, des verminoses et d'autres maladies hydriques qui peuvent s'accompagner. Mais aussi, ne négligez pas, je veux dire, un pic qu'on pourra assister des paludismes avec les flaques d'eau qui vont se constituer, les moustiques qui vont se reproduire là-dessus, et si le milieu n'est pas bien entretenu, vous allez voir dans les jours qui vont suivre, ou les semaines qui vont suivre, un pic d'hospitalisation dans différents hôpitaux.
Et si le temps climatique actuel redevenait encore à la normale, avec tout ce que vous avez énuméré comme maladie, est-ce qu'il n'y aura encore pas d'autres maladies qui s'enregistreront par exemple?
Je verrais que les gens puissent avoir une image beaucoup plus globale. Et la radio Capi fait un très bon travail là-dessus. Ils ont toujours des invités qui parlent d'environnement pour éveiller les gens. Des réglementations climatiques ne concernent pas que Béni. C'est tout le monde. Vous savez, que les mois passés, il y a des endroits en Amérique latine, ils ont frôlé les 50 degrés pendant qu'il pleuvait abondamment. Ou dans le golfe Persique, où il fait très chaud, ils ont été étonnés de voir une pluie qu'ils n'ont jamais réalisée avec des torrents. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est universel. Il faudra que chacun, de son côté, puisse accepter cette réalité et commencer à lutter aujourd'hui. On ne peut pas se cacher aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il y a un déboisement qui ne dit pas son nom, qui s'installe dans le parc, dans la forêt environnante. tous ces bois là, on est en train de couper, mais il faut des dizaines d'années pour qu'un arbre puisse atteindre sa capacité normale de recycler les CO2 en oxygène. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Quand on coupe autant d'arbres pour avoir nos charpentes, avoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on plante? Est-ce qu'il y a une politique de reboisement? Il n'y en a pas. Et aussi longtemps que nous n'avons pas pris conscience de cela, cela va avoir un impact sur l'environnement. Comme nous sommes un épisystème, c'est-à-dire l'homme et son environnement, ce qui va toucher l'environnement touchera l'homme d'une manière positive ou négative. Et dans ces cas-ci, nous parlons de ce qui est négatif. Et donc, la situation ne va pas, croyez-moi, il faudra arrêter d'être optimiste. Si on ne travaille pas, le climat va continuer à se détériorer et cela va avoir des conséquences sur notre santé et notre avenir.
Monsieur le docteur Baba Mtouza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Mise en onde, Alain Goyi, coordination et supervision, Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis.